Radio Tamani, voici nos informations en français.
Ravi de vous retrouver pour cette deuxième tranche d'informations du studio Tamani sur l'ensemble de ses radios partenaires. Au sommaire, la rentrée scolaire 2022-2023 est prévue pour le 16 septembre prochain selon le ministère de l'Éducation nationale du Mali. Parents d'élèves et responsables scolaires jugent cette date trop juste. Polémique autour de la nomination des membres de l'autorité indépendante de gestion des élections EIGE au sein de la classe politique. Cette situation pourrait-elle avoir un impact sur le calendrier électoral? On en saura plus dans ce journal. Fixation des prix plafonds du sucre par les autorités maliennes. La décision peine à être appliquée à l'intérieur du pays. Contrairement à Bamako, les prix varient toujours par endroit. Le développement de ces titres dans un instant par Moumine Sendebou avec la collaboration technique de Salim Djouara. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le ministère de l'Éducation nationale annonce la rentrée scolaire 2022-2023 pour le 16 septembre 2022. Cette rentrée concernant les écoles préscolaires fondamentales, secondaires, générales, techniques et professionnelles. Pour certains responsables scolaires, la reprise des écoles à cette date se fera avec des difficultés, alors que les parents d'élèves se disent surpris par la décision. Juliette Koulibaly nous donne plus de détails.
À Bamako, comme à l'intérieur du pays, la nouvelle a pris de court de nombreux parents d'élèves. Ces derniers affirment ne pas être suffisamment prêts pour cette date. Ils demandent aux autorités scolaires de revoir cette décision.
Non, on n'était pas au courant, c'est trop coincé.
D'abord, on s'attendait au mois d'octobre.
Juste à la fin du mois, et on nous donne justement 15 jours pour commencer une nouvelle année scolaire. Je trouve que c'est une décision immature.
La date coïncide à un vendredi. Nous voulons qu'il repousse au lundi ou à une autre date pour nous permettre de nous préparer.
Les responsables scolaires relèvent aussi des conditions non appropriées pour une reprise le 16 septembre. Ils affirment tout de même se conformer à la décision de l'État. Abdoulkader Traoré, directeur coordinateur du groupe scolaire Mamadou Diara numéro 2 de Medinankoura.
Vraiment, les conditions ne sont pas remplies parce que notre cours est inondé, il y a des herbes partout. Pour faire le désherbage, ce ne sera pas facile. Le 3 octobre était la date la mieux indiquée pour l'ouverture. Mais comme nous sommes derrière l'État, on est obligé de respecter cette date. On va essayer de faire l'impossible pour que la cour soit au moins assainie avant cette date.
L'année dernière, les autorités avaient fixé la reprise des écoles le 16 octobre 2021 avant de la repousser au 1er novembre à cause de certaines contraintes. Parmi celles-ci, l'inondation des cours de certaines écoles, entre autres. Il faut tout de même signaler que beaucoup d'établissements privés débutent les cours ce 1er septembre.
Clin d'œil à ceux qui nous suivent en direct sur Facebook. Comme eux, vous pouvez réagir à toutes nos informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Le gouvernement a interdit à 8 établissements de procéder à la formation en cycle supérieur dans les filières de la santé. La décision a été prise ce lundi 29 août 2022 par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Selon la décision, ces écoles qui ne disposent pas d'autorisation de création sont l'Institut national de formation de la Croix-Rouge malienne, l'école de santé Kala de Baguineda, l'école de santé Ba Aminata Doucouré, l'école de formation des agents de santé, l'école de santé Bakari Diakité, l'école privée de santé de Fana, l'école de santé Mariam Diara et enfin l'école privée de santé Univers Santé. Le directeur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l'exécution de la décision. Par ailleurs, la nomination des membres de l'autorité indépendante de gestion des élections EIGE enfle de plus en plus une polémique au sein de la classe politique. Cette situation pourra-t-elle avoir un impact sur le calendrier électoral? Le parti USR Union pour la sauvegarde de la République est catégorique. Cette polémique n'aura aucun effet secondaire sur le chronogramme électoral. Pourtant, la société civile dénonce un manque de consensus entre le gouvernement et les partis politiques, alors que le cadre d'échange des partis et groupements politiques évoque une violation de la loi électorale. Les détails avec Hawa Berti.
Nuntogo, président du parti Union pour la sauvegarde de la République, rassure. Selon lui, cette polémique autour de la nomination des membres devant siéger au sein de l'organe chargé des élections ne changera en rien le chronogramme électoral déjà établi.
Le ministre de l'administration territoriale mesure la gravité de la chose. C'est parce que là, donc, il a été nommé comme intérimaire pour assurer. Et donc, comme c'est lui qui organise les élections, on lui donne la responsabilité de continuer à tirer pour que ça puisse aller très vite.
Pourtant, le cadre de change des partis et regroupements politiques pour une transition réussie, le retard pris dans la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections risquerait d'impacter la mise en œuvre du chronogramme. Sekou Niamé Bachili, un des porte-parole du cadre.
Nous nous disons aujourd'hui, il y a les risques que demain le chronogramme ne soit pas respecté du fait seulement que le ministère a opté pour le tirage au sort pour une procédure qui viole la loi électorale.
Des propos partagés par l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali. Ibrahima Sango affirme qu'à travers cette nomination, le gouvernement n'est pas engagé à respecter le chronogramme électoral.
Il y a deux enseignements qu'on peut tirer. Le premier enseignement, c'est que le gouvernement n'est pas engagé pour respecter le chronogramme électoral. Le deuxième enseignement, c'est de dire c'est fait exprès pour que le décret soit attaqué et qu'on revienne à la case de départ.
Cependant, l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali invite le gouvernement et les partis politiques au respect des code et procédure de la loi électorale afin d'éviter une crise préélectorale.
La journée internationale des victimes de disparitions forcées est célébrée aujourd'hui. Cette commémoration intervient au Mali alors que des dizaines de personnes, dont des administrateurs civils, mais aussi des journalistes, restent introuvables depuis quelques années. Les syndicats et les parents de ces victimes s'inquiètent quant à la santé de leurs collègues et parents et exhortent les autorités à tout faire pour leur libération. Chaque jour d'attente est un jour de trop, déplorent leurs proches attristés. Reportage signé Draman Meiga.
Depuis son enlèvement, toute la famille souffre des jours comme des nuits, et surtout sa propre mère et ses propres enfants. Les mots me manquent.
Vous l'avez compris, c'est avec des larmes aux yeux et une voix sanglotante que Mme Niali Bouli s'est exprimée. Son époux, Hamadou Niali Bouli, a été enlevé le 27 septembre 2020 et depuis, sa famille est sans nouvelles de lui. Elle ne souhaite que la libération de son mari.
Je veux mon mari, un jour qu'il soit libéré pour regagner la famille. C'est mon seul souci.
Ali Cissé et Drissa Sanogo étaient respectivement sous-préfet de Farako et préfet de Gourmararous au moment de leur enlèvement. L'appel reste le même depuis plus de deux ans, indique le syndicat autonome des administrateurs civils, SINAC. Bourama Diarra, secrétaire par intérim du SINAC.
En 2018, c'était une déclaration que nous avons remise au ministre d'Antan, le ministre Mohamed Agha Erlaf. Et en 2020, nous avons adressé une lettre de protestation au PM, aux autorités, de faire quelque chose pour leur libération et aussi, avant leur libération, de faire un appui financier et tout autre appui à l'endroit de ces familles en détresse.
En plus d'eux, les journalistes français Olivier Dubois et malien Moussa Diko sont toujours aux mains de leurs ravisseurs.
Cap sur un autre sujet, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a rendu visite ce mardi aux 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali depuis le 10 juillet dernier. Selon la Commission, les 49 soldats ivoiriens sont en bonne santé, leurs droits sont respectés et n'ont subi aucune torture. Cependant, la Commission recommande aux autorités compétentes de prendre toutes les mesures appropriées pour un meilleur respect de leurs droits conformément à la loi. Agui Boubouari, président de la Commission nationale des droits de l'homme du Mali, est joué au téléphone par Hawa Berti.
Nous les avons trouvés dans un état d'esprit serein. Ils nous ont assuré qu'ils ne sont pas torturés, ils ne subissent pas de sévices corporels, encore moins d'atteinte à l'intégrité physique. Et leur droit à l'alimentation est respecté en général. En revanche, il y a quelques préoccupations par rapport à leur droit à la santé, à leur droit à l'information, à leur droit à des visites. Donc, en gros, ils sont sereins et la procédure judiciaire continue parallèlement. Mais il y a des détenues femmes qui n'ont pas bénéficié des kits de dignité. Donc, nous avons recommandé aux autorités de mettre tout en œuvre pour un meilleur respect des conditions de détention de ces personnes.
Je l'annonçais dans les titres, suite à un consensus, le Comité national de fixation des prix a exigé aux importateurs de céder le sac du sucre à 30 000 francs CFA et les kilos à 650 francs CFA pour les détaillants. Si à Bamako, cette mesure est respectée depuis la semaine dernière, dans les régions, il diffère toujours. Mamadou Samasekou, avec le concours de certains de nos correspondants, nous en dit plus.
À Kaye, dans le cercle de Baflabé, des consommateurs reconnaissent que le prix de 650 francs le kilo commence à être respecté par certains détaillants.
D'autres vendeurs vendent le kilo maintenant à 650 francs. D'autres même ne respectent pas la loi. Certains vendent comme bon leur semble.
Le changement se fait constater depuis le jeudi passé. Aujourd'hui, vraiment, on peut dire que les prix ont baissé. Le sucre à 650, 700 quelque part.
Pendant ces temps à Kadiolo, certains clients se plaignent du non-respect de cette mesure, même si certains commerçants indiquent le contraire.
Le demi-kilo coûte souvent 375 francs et le kilo 750 francs. Le sucre que j'achète, on me l'offre maintenant à 800 francs. Le prix a haussé jusqu'à 800 francs CFA. C'est parce que ça coûte cher chez nos fournisseurs. Si le sac de sucre coûte 30 000 francs CFA et qu'on cède le kilo à 600, 650, nous ne gagnerons aucun bénéfice.
Dans le centre du pays, à Bankas, pour le moment, le kilo est vendu entre 675 et 700 francs CFA. Selon des habitants.
Nous, on vend les kilos à 675 francs. À l'intérieur des Bankas, c'est 700 francs. Pour des raisons de routes non praticables de l'hivernage.
Nous vendons les kilos de sucre ici à Bankas à 700 francs.
À Menaka, comme dans plusieurs localités du nord du pays, les prix restent instables. Cela serait dû à la diversité des sources d'approvisionnement des denrées alimentaires, affirment des grossistes.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Un tour à présent dans les régions avec l'actualité en bref. Des forêts en provenance de la foire hebdomadaire de Banaba ont été dépouillées par des hommes armés ce lundi entre les villages de Djatourouburu et Nganou. Selon les témoins, les assaillants ont emporté des moutons et une forte somme d'argent. Une enquête est ouverte par les forces de défense et de sécurité de la localité. Direction Massina, les villages Bozo de Emeru et Konkourou dans la commune de Massina s'y sont réconciliés ce mardi après 64 ans de litige. Cette réconciliation a été rendue possible grâce à l'intervention des responsables de la communauté Dogon par le lien du cousinage. Un conflit autour d'une zone de pêche sur le fleuve Niger appelé Farajalani opposait ces deux villages depuis le 28 juin 1958. Le préfet du cercle de Massina annonce la signature du pacte de paix le 22 septembre prochain à Massina. Et ainsi se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi pour le réécouter ainsi que l'ensemble de nos productions. Rendez-vous sur notre site web www.studiotamani.org ou appelez gratuitement sur Biamo au 37 321. Studio Tamani. La criminalisation de l'esclavage, la prise en compte de la responsabilité pénale des personnes morales, des violences basées sur le genre, telles sont quelques nouveautés des avant-projets de loi du Code pénal et du Code de procédure. Un atelier national de validation de ces textes a été organisé par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme du 15 au 20 août dernier. Christian Idrissa Diassana, magistrat et président de la Chambre criminelle à la Cour suprême du Mali, revient sur ces textes. Il est au micro de Lali Tangara.
Le projet vient d'être validé, pratiquement le processus final. Mais avant ça, il y a eu un long processus de recherche et de préparation. C'est tout cela a commencé par les termes de référence par lesquels le ministre de la Justice a indiqué les réformes qu'il entendait voir dans le corps pénal.
Selon vous, quelles sont les dispositions qu'il faut nécessairement réviser dans ces nouveaux codes?
Prévoir de nouvelles infractions pour punir des comportements sociaux qui n'étaient pas jusque-là punissables parce que notre code recelait certaines lacunes. Par exemple, en ce qui concerne, vous savez, certains enseignants retiennent des notes quand ils veulent faire des revendications. On ne peut pas assimiler cela au droit de grève. Et les notes des élèves ne sont pas la propriété des enseignants. C'est juste un outil de travail pour attribuer des notes. Et le ministère de l'Éducation nationale nous a approchés pour qu'on puisse incriminer ce comportement. Et ça a été fait, c'est désormais un délit. Quand le code va être adopté et promulgué, il y a aussi la mise en danger de la vie d'autrui. Il y a le harcèlement sexuel, il y a l'esclavage. Beaucoup de nouvelles infractions ont apparu dans ce texte qui n'étaient pas réprimées par le passé.
Quelle va être l'importance de ces nouveaux textes dans le rendement de la justice?
Alors, il faudrait que ce texte soit appliqué. Parce que, vous savez, je le dis souvent, certaines lacunes n'existent pas en réalité. Malheureusement, il y a certaines parties des textes qui ne sont pas appliquées. Je vais vous donner l'exemple des peines complémentaires qui existent dans notre dispositif pénal depuis 1961. Mais les juges ne les appliquent pas très souvent. Par exemple, en matière d'accident de circulation, le juge a la faculté, après avoir condamné l'auteur d'un accident de circulation à des peines d'amende ou de prison, il peut aussi lui retirer son permis de conduire, mais qui ne sont pas prononcés. Et il y a les comportements sociaux que ce texte a vocation à punir. Lorsque ces comportements-là se réalisent, il faut bien que les juges les appliquent.
Alors, est-ce qu'on peut dire que ce projet de code a été fait en prenant en compte des réalités du Mali?
Exactement. Ce sont les réalités culturelles ou sociales du Mali. On a légiféré dans le domaine des atteintes aux mœurs. Déjà en 2001, la pédophilie avait été réprimée. La pédophilie jusqu'en 2001 n'était pas une infraction au Mali. C'est en 2001 qu'on l'a introduite. Vous voyez, la société évolue, le droit aussi doit évoluer. Il y a aussi les atteintes au genre qui sont réprimées. Il y a l'adultère qui vient d'être défini. Ce n'était pas le cas dans le code actuel. On avance progressivement quand les juges appliquent les textes et qu'on voit que ces textes-là recèlent certaines insuffisances. Alors nous, en ce moment, la partie législative, nous veillons à ce que ces insuffisances soient corrigées et que les lacunes soient comblées.